Conversation avec un article, 16e épisode, déjà, le principe, un compte-rendu d'articles scientifiques récents publiés dans une revue en sciences humaines et sociales. Heureux de vous retrouver après quelques semaines sans podcast, ou moi, je sais plus, cherche encore mon rythme et il est assez bousculé en ce moment, mais je retrouve progressivement mon corps et ses coordonnées. Autre chose qui m'a un peu éloigné de la recherche ces derniers temps, en plus d'avoir été un peu malade, le passage d'une loi, la dite LPPR, qui va précariser les jeunes chercheurs et chercheuses, affaiblir nos statuts, privatiser de plus en plus ce qui restait de public à l'université. C'était difficile pour moi de continuer à faire comme si, à continuer comme si rien n'était passé. C'est toujours difficile, mais il me semble que l'enseignement, la médiation scientifique, que le podcast font partie ou devraient faire partie de mes activités principales d'enseignant-chercheur, et c'est ce qui me donne du désir, de l'énergie au quotidien, donc j'y reviens. Yalla, comme dirait ma mère. Aujourd'hui, donc, un article publié le 30 avril 2020 dans la revue Big Data and Society. Il a été rédigé par quatre collègues de l'école de communication de l'université du Costa Rica, Ignacio Siles, Andrés Segura Castillo, Ricardo Solis et Monica Sancho. Pardon si j'ai égratigné leur nom. Leur article, leur beau travail porte sur Spotify et sur son algorithme de recommandation musicale. Alors, deux mots déjà sur Spotify que j'utilise au quotidien depuis des années pour ceux et celles qui ne connaissent pas. C'est un logiciel, un dispositif qui vous permet d'écouter de la musique en streaming avec ou sans abonnement. C'est 10 euros par mois si vous voulez écouter la musique offline, après téléchargement et sans pub. Il y a également des fonctions dites sociales. Vous pouvez voir ce que vos amis écoutent, vous pouvez accéder à des playlists créées par d'autres usagers et de manière générale, vous voir recommander des titres musicaux grâce au fameux algorithme de Spotify. L'article porte justement sur cet algorithme. Et pour une fois, je suis content de lire autre chose qu'une étude de boîte noire, comme disent les sociologues. C'est important, évidemment, c'est toujours intéressant de comprendre les coulisses, d'ouvrir les boîtes, justement, de Pandore, et de situer la manière dont les concepteurs de ces algorithmes ou de ces logiciels pensent, travaillent, les fabriquent, alors que ces processus sont opaques. Ici, c'est un peu différent. Les quatre universitaires se sont plutôt demandé ce que savent les gens de Spotify et de son algorithme. Ce qui les intéresse, ce sont les imaginaires algorithmiques, pour reprendre un concept d'une chercheuse citée dans l'article, Bucher. Je vous mettrai la référence. Et personnellement, je me suis souvent posé la question, pourquoi on propose tel type de musique, comment Spotify parvient à capter le style supposé de quelqu'un et à se tromper de moins en moins dans ses recommandations. Il tombe assez juste, hein. Moi je suis assez surpris de voir comment je me suis déplacé depuis quelques années. J'écoute maintenant de l'électro-alternatif et d'autres trucs. Donc c'est en effet, ça peut paraître assez surprenant, hein, ce déplacement continu. Alors parfois je trouve que l'algorithme se plante complètement, notamment dans une des playlists proposées, les découvertes de la semaine, ou alors je vois un peu trop le truc, et la raison pour laquelle l'algorithme propose tel ou tel titre. Bref, l'article porte justement sur ça, les hypothèses que font les gens, comme moi, sur le fonctionnement, de Spotify. Alors, quelques mots sur le terrain qui se situe en Amérique latine, au Costa Rica, où Spotify connaît manifestement une forte croissance depuis 2013, date où le logiciel, le dispositif ou le service, pour reprendre la rhétorique de Spotify ou de ses industries, a été lancé. C'est un pays avec un fort taux de connectivité, les infrastructures de communication sont fiables et Spotify est le dispositif musical le plus utilisé. Les quatre universitaires de l'article justifient très bien le choix du Costa Rica, ce que font d'ailleurs peu leurs collègues européens, européennes en général, comme si étudier les usages français, par exemple, allait de soi. Leur but est justement de montrer que la manière de comprendre les algorithmes, de faire des hypothèses sur eux, dépend en partie du pays où l'on vit. Pour mener leur enquête, les quatre universitaires ont mené une trentaine d'entretiens individuels semi-structurés de 40 minutes avec 22 gros utilisateurs et utilisatrices de Spotify, 15 hommes et 15 femmes, de 19 à 52 ans entre août et novembre 2018. Les conversations ont porté sur l'histoire et la pratique de consommation musicale de chaque enquêté, sur le contexte social de cette consommation, sur l'utilisation éventuelle de divers médias. Les universitaires ont systématiquement demandé aux enquêtés d'ouvrir leur compte Spotify sur ordinateur et leur ont demandé d'expliciter le contenu affiché. Ces premiers entretiens ont été complétés par 4 groupes de discussion avec 22 personnes âgées de 18 à 62 ans entre août et octobre 2019. Lors de ces groupes de discussion, les personnes ont pu dessiner collectivement la manière dont ils se représentaient Spotify et son fonctionnement, ce qui est une manière de montrer comment se fabrique le sens en commun et comment il se négocie. D'un point de vue théorique, les quatre chercheuses, eux, se sont appuyées sur plusieurs concepts que je décrirai plus loin. Ils et elles ont procédé un peu différemment de ce qu'en font leurs collègues habituellement. En effet, il existe déjà des travaux sur Facebook, par exemple, ou YouTube, et sur ce que les gens savent ou pensent savoir de leur fonctionnement. Mais ici, et c'est ce qui est précieux dans cet article, les quatre universitaires montrent que Spotify n'est que la partie immergée de l'iceberg. La compréhension des usagers, comme on dit, est en fait reliée à un vaste réseau de croyances, de valeurs, d'espaces, de technologies, d'interactions. En fait, plus Spotify est inscrit dans la vie des gens, dans leur quotidien, plus les gens, les usagers, vont avoir une vision cartographique de son algorithme. J'y reviendrai. On a donc affaire à ce que les quatre universitaires appellent un système de pensée, des savoirs folk, populaires, qui sont considérés comme opératoires pour les personnes y ayant recours. Ces savoirs intuitifs, indigènes, leur permettent d'organiser leur expérience, de générer des raisonnements, de guider leurs pratiques. La culture est donc pensée ici, les quatre universitaires le disent explicitement à la suite d'un autre chercheur, je vous ai mis les références, comme une trousse d'outils étrangement assortis dans laquelle on puise pour donner forme et sens au monde. Cette trousse d'outils fournit des ressources, des moyens pour se relier au monde, pour affirmer son identité, pour se positionner, ce qui correspond également à ce que montre l'anthropologie des savoirs. Alors les résultats des quatre universitaires sont vraiment intéressants et c'est parce qu'ils les relient systématiquement à la situation du Costa Rica. J'évoquerai les limites de leur conceptualisation. Je suis par exemple pas si à l'aise que ça avec la notion de savoir indigène, mais pour l'instant je suis leur démonstration. À partir de leurs entretiens et de leurs enquêtes, le groupe d'universitaires montre que les usagers ont deux manières de s'expliquer le fonctionnement de Spotify. Premièrement, les usagers de Spotify personnifient l'algorithme de Spotify, le dotent d'une agentivité, pour utiliser un terme technique, d'une puissance d'agir. Pour le dire autrement, ce n'est pas qu'un outil pour certaines personnes, c'est un être vivant qui peut avoir des intentions. Certaines l'appellent ainsi mon pote et le comparent à un être humain avec des yeux, des mains, des cheveux, des jambes, un visage. La croyance générale, c'est que Spotify est un œil qui voit tout ce dont rend compte le dessin d'un des groupes étudiés. Dans d'autres cas, l'algorithme est comparé à un psychologue qui tente de s'ajuster aux humeurs de l'usager et lui permet de les préciser auprès de ses amis en envoyant une chanson, par exemple. Spotify est ici pensé comme un intermédiaire. Mais cette surveillance, et c'est là que ça devient intéressant, est vécue très différemment au Costa Rica. Contrairement aux pays européens ou aux États-Unis, ce pays s'est construit, disent les universitaires costaricains, sur l'idée de la paix depuis la fin des années 40. La surveillance liée à des documents, à du fichage, à des données, est manifestement moins problématique d'après les quatre universitaires. Et ils le repèrent dans le discours de leurs enquêtés. Ils repèrent des traces de cette histoire. Par exemple, les usagers costaricains de Spotify estiment que pour bénéficier de recommandations personnalisées, ils et elles doivent passer par là, sans que la pratique ne les gêne plus que ça. Tous et toutes, bien évidemment, n'ont pas le même positionnement. Certaines ont par exemple refusé d'humaniser l'algorithme, en estimant qu'ils avaient affaire à un fantôme, les suivant partout. Par contre, quand il s'agit de lui trouver des défauts, les caractéristiques humaines sont de nouveau utilisées. À cause de sa recommandation qui peut être répétitive, certains estiment que Spotify est un mec très ennuyeux. On l'a tous rencontré. Là encore, le point de vue des usagers dépend des conceptions locales de l'amitié et des relations sociales, selon les quatre universitaires. Au Costa Rica, manifestement, la cohésion sociale est fondamentale, ce qui impose des individus qu'ils évitent de se mettre en avant, ce qui leur impose d'être discrets. Je reprends les termes des auteurs, autrices de l'article. Or, l'algorithme est parfois trop bavard ou perturbe l'expérience des usagers en proposant des recommandations à côté de la plaque. Les quatre universitaires repèrent donc ces marqueurs sociaux dans le discours de leurs enquêtés en montrant ce qu'ils ont de spécifique par rapport à d'autres pays. On peut donc sans doute penser qu'il y a une corrélation. Ces points de vue sur l'algorithme sont également reliés à des réservoirs d'expérience, à des connaissances plus ou moins précises sur le fonctionnement des technologies en général. En fait, les usagers intègrent dans leur compréhension de Spotify l'expérience qu'ils et elles ont eue avec d'autres dispositifs comme Facebook, YouTube ou Apple Music. C'est à l'aune de ces expériences passées que l'expérience de Spotify est jugée, articulée à des conceptions identitaires et nationales du Costa Rica, comme on l'a déjà vu. Alors, deuxième conception des usagers de Spotify, ils réduisent l'algorithme à un processus machinique. Ils peuvent considérer que l'algorithme est un robot formé pour obtenir des résultats, essentiellement. Certains usagers, des ingénieurs ou des politologues par exemple, évoquent un système de rétroaction et recourent à des rectangles et des cartes pour l'expliquer. Dit autrement, l'algorithme apprend des comportements de l'usager en lui proposant une base de musique formatée qui est corrigée à partir de ses actions, à partir de ses retours. C'est une conception typiquement cybernétique, ce qui identifie bien les quatre universitaires. Les usagers de ce deuxième groupe de conception de l'algorithme utilisent également souvent la notion de ressources minières, d'encyclopédie ou de catalogue. L'algorithme puise dans les ressources à sa disposition pour proposer une recommandation singulière. Selon les universitaires, on a encore une fois affaire à un imaginaire identitaire propre au Costa Rica. Les ressources minières ou la richesse d'un pays sont précisément ce qui permet de distinguer un lieu d'un autre, ce qu'a très bien compris le gouvernement costaricain, qui a souvent vendu le pays comme étant riche en ressources et sans artifice naturel. Ici, le recours systématique à la notion de ressources accolé à l'expérience algorithmique permettrait d'expliquer le point de vue des usagers selon les quatre universitaires. En effet, Spotify puise dans un ensemble de ressources pour proposer une recommandation qui se veut singulière, unique. Cette deuxième conception, très matérialiste, permet également aux usagers d'établir une distinction claire entre les acteurs de Spotify et son fonctionnement matériel, économique, technique. Ici, Spotify est pensé comme un assemblage entre humains, code informatique, business model. On retrouve grosso modo la conception que pourraient avoir des chercheurs et chercheuses qui parleraient de dispositifs techniques ou d'assemblages sociaux, techniques, socio-économiques. Alors, pourquoi ces théories populaires sont-elles adoptées par les gens, ce qui est l'autre volume important de l'article, selon les quatre universitaires, pour deux raisons principales. D'abord, ces théories leur permettent de renforcer des capacités spécifiques, comme l'affirmation d'une personnalité propre ou la capacité à s'insérer dans un groupe ou à maintenir des relations amicales, puisque Spotify permet de regarder les playlists de ses amis, de partager des musiques, etc. Les groupes de discussion sont également analysés sous ce prisme par les chercheurs-chercheuses. Ils montrent que les points de vue des usagers évoluent en fonction de la dynamique du groupe. Selon eux, c'est une fois encore à mettre en résonance avec la sociabilisation au Costa Rica, où l'adhésion à un système de pensée permet d'indiquer qu'on fait partie du groupe. Ensuite, l'émergence ou la stabilisation d'un point de vue dépend certes ou en partie de la profession des individus, de leur classe sociale ou intellectuelle, mais également du niveau d'insertion de Spotify dans leur vie. Plus Spotify est intégré à un quotidien, plus l'algorithme est doté d'une action autonome propre à élucider. Les individus vont ainsi chercher à coopérer avec l'algorithme à partir de l'idée qu'ils se font de lui. Par exemple, ils vont avoir tendance à appuyer systématiquement sur un cœur après une recommandation ou à suivre un artiste pour aider l'algorithme, pour l'entraîner. Ils se transforment donc en petits coachs qui s'ajustent au fonctionnement de leurs clients. On voit ici que la logique est quasiment renversée. Pour résumer, les quatre chercheurs recourent à deux concepts principaux, celui de théorie populaire d'abord, qui leur permet de montrer de quelle conception du monde, de quelles valeurs et de quelles croyances se dotent les individus pour s'orienter dans le monde, pour réaliser certaines actions, pour affiner leurs compétences sociales, techniques, intellectuelles. Ensuite, ces savoirs populaires sont pensés comme une boîte à outils dans laquelle puiser selon des situations et les objets avec lesquels interagissent les gens. Dans le cas de Spotify, on l'a vu, plusieurs chaînes ou plusieurs savoirs issus du Costa Rica sur l'amitié, sur les ressources minières, sont à un moment donné mobilisés manifestement pour comprendre comment fonctionne le dispositif. Bref, les gens ont des histoires vivantes à partager qui leur permettent de comprendre la manière dont fonctionne le système de recommandation de Spotify. Alors, quelques remarques, comme à mon habitude. D'abord, j'ai bien aimé l'angle d'attaque de l'article qui déplace le centre de gravité vers l'Amérique latine et vers d'autres types de méthodologies. J'ai notamment apprécié la manière dont le terrain, le Costa Rica, a été intégré pour situer la parole des enquêtés. Ce sont des Costaricains. Ils et elles ont une manière différente de voir le monde du fait de leur histoire. Du fait de leur situation géographique, des relations et des interactions propres à l'Amérique latine. Cette perspective est explorée et repérée dans leur discours, ce qu'on n'a pas toujours l'habitude de faire. Ensuite, j'ai apprécié que la perspective anthropologique soit adoptée au profit des modèles psychologiques omniprésents, du moins dans le discours médiatique, leur seul prisme. Le seul prisme des médias, hein, qui caricature d'ailleurs la psychologie, qui est une science éminemment complexe. Mais pour comprendre les logiques de captation de l'attention, les médias recourent toujours à la notion d'addiction. Or, on le voit ici, c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. En fait, Spotify est la partie visible d'un assemblage. Ce petit logiciel se tresse à la vie des individus en investissant leurs relations, leurs goûts, en participant à de nouveaux rituels sociaux, le partage, le rendez-vous hebdomadaire, etc. Et en se stabilisant progressivement dans le quotidien des gens. Le fonctionnement du dispositif est en fait incorporé. Il se distribue dans la vie des individus qui s'ajustent à lui dans un tressage très fin, dont rendent compte en partie en tout cas les universitaires. Alors, un certain nombre de questions sont cependant, restées en suspens pour moi. Premièrement, on ne sait pas très bien comment le macro est relié au niveau micro. J'ai pas toujours très bien compris comment le contexte social, historique, costaricain était repéré dans le discours des usagers. On a l'impression parfois que ça sort du chapeau. Les universitaires n'identifient pas des marqueurs spécifiques et ne mènent pas des analyses spécifiques de documents gouvernementaux, marketing. Sur la vie au Costa Rica, par exemple, d'un point de vue méthodologique, c'est redoutable, je le nie pas. C'est toujours très compliqué d'identifier des marqueurs, je me demande même s'il faut le faire ou des passages. On risque toujours de glisser vers des formes de causalité naïve. Mais la notion de résonance qu'on avait vue dans le premier podcast aurait peut-être suffi. Sans chercher des liens déterministes, on peut considérer qu'un ensemble de discours existent et circulent dans une société qui se font écho. Alors, deuxièmement, je trouve que la notion des savoirs populaires, ordinaires, indigènes n'est pas complètement exploitée. Elle est très précieuse, évidemment, elle permet de sortir de la distinction des savoirs et de leur hiérarchie, sans tomber pour autant dans des formes de démagogie ou de relativisme. Mais j'ai eu l'impression que ces savoirs étaient évalués à l'aune des savoirs scientifiques, qui semblent servir de curseur pour déterminer ce qui est de l'ordre de l'ordinaire ou du populaire. Alors, je nie pas qu'il existe des savoirs savants, tous les travaux de mon ancien directeur de thèse, Christian Jacob, le montrent, mais lui-même a fini par proposer une définition inclusive des savoirs, comme l'ensemble des procédures intellectuelles, matérielles, sociales, voire cosmologiques, qui permettent de se saisir du monde. Autrement dit, les savoirs dits savants sont aussi des vérités utiles, comme diraient les pragmatistes, c'est-à-dire des croyances qui mobilisent d'autres critères de validité pour distinguer le vrai du faux. Cette reconnaissance aurait peut-être permis de configurer différemment les groupes de discussion. À plusieurs reprises, on voit bien que les usagers ordinaires trouvent des conclusions assez similaires aux universitaires, en communication en tout cas, notamment quand ils identifient au sujet de Spotify des assemblages techniques, économiques, sociaux. On aurait donc pu imaginer un autre groupe de discussion auxquels les universitaires auraient pu prendre part et où ils auraient mis à contribution leur propre savoir. Par exemple, la pseudo-personnalisation est typique des industries culturelles. Depuis les années 20, on sait que l'industrie propose une expérience singulière à partir d'une base standardisée. Donc aujourd'hui, vous pouvez rajouter une couleur à un meuble IKEA, par exemple. C'est typique des industries culturelles. Ce qu'une collègue, Stéphane-Héloïse Gras, aurait appelé des machines du goût. Je vous ai mis la référence dans le descriptif du podcast. Et il me semble que cette question aurait pu être intéressante à proposer aux participants. En retour, pourquoi ne pas prendre au sérieux la question de l'agentivité de Spotify, identifiée par certains usagers? Les universitaires estiment que c'est une croyance ou un savoir populaire, mais on voit bien que l'agencement de Spotify, que l'articulation entre économie, pratique, infrastructure, crée une réalité autonome qui échappe sans doute à ses concepteurs. Et donc on est proche, en effet, d'une forme d'autonomie ou d'agentivité. Pour terminer, à plusieurs reprises, les universitaires mentionnent la catégorie socio-professionnelle des enquêtés. Ce sont des ingénieurs, des politologues, des artistes, des étudiants, etc. Ils et elles sont allés à l'université et ont une conception finalement assez homogène, proche de celle des universitaires. Peut-être qu'en intégrant des rapports de classe ou de race sociale, les résultats auraient pu être différents et auraient peut-être permis de mettre au jour des tensions dans le pays, révélées par le point de vue sur Spotify. Enfin, la question du genre n'est jamais évoquée alors que les groupes respectaient une forme de mixité. Pour le dire autrement, est-ce que la configuration même des groupes de parole n'a pas permis à un type d'individu de faire émerger une conception donnée de la technique, et plus précisément de Spotify? Bref, quels sont ici les liens entre la production du savoir et le pouvoir social des enquêtés et des enquêteurs? Je m'arrête là, j'arrive. Ouais, c'est beaucoup, beaucoup trop long. Je suis à 2 minutes quasiment. J'essaierai de vous faire un podcast prochainement. Manifestement, j'en avais pas fait depuis longtemps. J'avais des choses à dire. Je vais essayer de respecter un rythme d'un podcast par mois, ou peut-être plus, en fait. C'est l'envie qui me guide. À bientôt.